Merci, Sean. Bonjour à tous. Quand j'entendais Trevor prier que le Seigneur arrose le Québec de sa bonne grâce. Il arrose le Québec de sa bonne grâce. Alors oui, effectivement, ouvrons la parole de Dieu ce matin. Je vous invite à tourner dans vos Bibles. Le verset qui nous intéresse, qu'on va examiner ce matin, Livre des Actes au chapitre 1. Le verset 8, et on va se donner un peu un contexte qui va un petit peu nous aider à se situer. Alors, Livre des Actes, chapitre 1, si vous n'avez pas de Bible, on vous encourage à vous en procurer une. Et même, on peut vous en donner une, on peut vous donner un Nouveau Testament gratuitement, qui sont offerts à notre table de traité. On peut peut-être même vous offrir une Bible aussi. Je ne vois pas Robert, Vincent, notre évangéliste de service. Robert, y a-tu des Bibles de disponibles? Si jamais il y en a qui n'ont pas, on en a en masse. Gloire à Dieu. On va commencer au verset 3. Alors évidemment, ça se passe après la résurrection et le Seigneur qui continue de sanctifier, travailler avec ses disciples. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Béni soit sa parole. Eh bien, lorsque les premiers chrétiens ont sorti l'Évangile des frontières de la Samarie, il ne restait que les extrémités de la terre à parcourir. Plusieurs affirment aujourd'hui que l'Évangile est sur le point d'avoir atteint tous les petits raccoins de notre belle planète, du nord de la Russie extrême jusqu'au fond de la jungle de la Papouasie. Certains affirment que les derniers jours sont à nos portes à l'effet que la mission donné par le Maître lui-même dans ses derniers mots, juste avant son ascension, que sa mission est terminée, accomplie, et que tout est en place pour son retour glorieux. Donc, pour nous, en 2017, au 21e siècle, en Amérique du Nord, à Trois-Rivières, est-ce que cette mission est toujours pertinente? Est-ce qu'elle est toujours valide? Eh bien, si ça vous encourage à devenir de plus en plus inactif pour la cause de l'Évangile, j'aimerais vous encourager ce matin autrement. Vous savez, c'est comme lorsqu'une armée fait une avancée. Il y a différentes unités qui ont des avancées dans différentes directions. Et lorsqu'une unité en particulier a atteint la cible qui lui était donnée, eh bien là, elle s'arrête. En attendant que toutes les autres unités puissent atteindre leur cible également, le plan de guerre total. Mais ces unités qui s'arrêtent, qui ont accompli leur mission partielle, eh bien, pour eux, c'est terminé, ils attendent. Ils attendent que ça se termine ailleurs. Ils se reposent, ils pansent leurs blessures. Ils enterrent leurs morts. Ils sont épuisés physiquement, psychologiquement, spirituellement. Eh bien, sommes-nous comme ces soldats qui ont terminé leur avancée en attendant que nos soldats missionnaires, eux, terminent de leur côté. Et puis nous, on se repose, on pense nos blessures, on est spirituellement épuisés, on regarde la population qui nous entoure comme étant blasés de nous, qui n'ont plus besoin de nous. En fait, on a vraiment l'impression de leur nuire aussi. Ce peuple québécois, libéré du joug religieux, qui ne veut plus voir ces soldats de la religion qui sont un cancer à l'évolution de sa pensée libre, au contrôle des naissances, contrôle de la vie, au contrôle du mariage, au contrôle de la mort. Reculons au point de départ. La mission qui a été confiée aux 11, à ces 11 hommes qu'on peut qualifier là, de peut-être pas exactement compétents sur le plan politique ou même militaire, ils se voyaient confier une mission d'une grandeur absolument inouïe, titanesque, impossible. Oui, la Judée, la Samarie, il avait parcouru le territoire de haut en bas, de long en large, avec le maître, en compagnie du maître. Le maître les avait même envoyés deux par deux, conquérir ce territoire qu'ils connaissaient, aller chasser des démons, leur annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ils revenaient auprès de lui, raconter des victoires, leurs défaites, et le Seigneur les rassemblait autour de lui. Il les sanctifiait de nouveau avant de les renvoyer. Comme des brebis parmi les loups. Vous imaginez-vous, leur coach, leur mentor, leur maître, le maître lui-même, hein? Il n'avait pas discerné de diplôme théologique d'une faculté quelconque, mais il était entraîné, équipé par le maître lui-même, celui qui a placé les étoiles dans le ciel, celui qui conversait avec Adam dans le jardin, celui qui a dit à Noé de construire un arche, celui qui a demandé à Moïse de sortir son peuple d'Égypte. C'était lui, en chair et en os, qui était là et qui les préparait à conquérir le monde. C'était une unité spéciale. C'était les Navy Seals de l'Évangile. Ces hommes n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Aucune idée. Et même à ce moment-là, ils n'étaient pas encore prêts. Et même, ils ne comprenaient pas toujours ce que Jésus voulait vraiment leur faire accomplir. Ces hommes avaient la conviction qu'ils allaient reconquérir la terre d'Israël. Dehors l'oppresseur, dehors l'envahisseur. On veut être libre, autonome, souverain. Fini de payer nos taxes à Ottawa, à Rome. Fini de payer nos taxes à Rome. Léger lapsus. Voyez-vous, même en ce temps-là, hein, les apôtres qui demandent, « En ce temps, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? » Les apôtres n'avaient pas encore tout à fait compris. Hein? Mais le maître est patient. Hein, il leur explique, « Non, non, les boys, ce n'est pas tout à fait le plan que j'ai pour vous. J'ai d'autres choses en attendant. » Et puis là, il reprend, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Vous serez mes témoins. Frères et sœurs, avons-nous été baptisés du Saint-Esprit? Est-ce ce même Saint-Esprit qu'on a été baptisé, qui a été donné aux apôtres? Est-ce le même? Eh bien, si c'est le cas, si on croit cela, on doit s'approprier cet ordre de mission qui a été donné. On doit se l'approprier aujourd'hui, encore en 2007. 2017, j'ai en retard. Je vais suivre. Donc, premièrement, vous serez mes témoins, dit le Seigneur. Il n'est pas allé de grandes structures ou de définition de rôle, mais il est allé d'une simplicité déconcertante. Vous serez mes témoins. Point. Qu'est-ce qu'un témoin? Hein? Par définition, personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut éventuellement le certifier, le rapporter. Nous avons tous entendu la parole. En fait, c'est peut-être une petite portion de la parole ou des plus grandes portions de la parole qui nous ont menés à la réalisation de notre état devant Dieu. à la repentance, à la marche en nouveauté de vie. Romains 6, 4. Nous avons donc tous le potentiel de témoigner de cela. Mais la nuance, là, est que celui qui nous a rachetés de sa propre vie, il a utilisé le verbe à l'impératif. Il a dit, vous serez mes témoins. Pas vous pouvez, vous serez. Vous serez mes témoins, et non pas avec timidité, ni avec faiblesse, mais avec une puissance. Pas n'importe quelle, celle du Saint-Esprit de Dieu. Intéressant de savoir que le mot dans le grec original veut dire « martyr ». Hein? En grec, « martyras », un témoin. Parce que les premiers chrétiens, les chrétiens du premier siècle, lorsqu'ils témoignaient de la vérité concernant la personne de Jésus-Christ, ça voulait dire « martyr ». Et vous savez, c'est encore une réalité aujourd'hui. C'est encore une réalité dans certains coins du monde. Manquez pas le message du 7 juin qui va parler de cette réalité que nos frères et sœurs qui témoignent de l'Évangile en payent leur propre vie. Le témoin, premièrement, œuvre dans un champ de mission. Ça y prend un champ de mission. Sinon, si on ne connaît pas notre champ de mission, on risque de mal accomplir notre mission, ou pire encore, de peut-être pas l'accomplir du tout. C'est comme l'agriculteur qui sort dans son champ pour labourer, enlever la roche. Oh, ça, j'aimais pas ça. Hein? Irriguer, semer, jusqu'à temps qu'il va avoir sa récolte. Eh bien, on doit connaître ses champs, comme l'agriculteur le connaît, où il œuvre chaque jour. Alors, on doit connaître nos champs où on va œuvrer chaque jour. Connaissons nos champs de mission. Jésus en donne quatre aux apôtres. Judée, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Comment appliquer ça aujourd'hui? Eh bien, je donne quelques suggestions. Donc, Trois-Rivières, notre Jérusalem, est assez simple comme comparaison, ville pour ville. Mais la Judée, hein, un territoire très homogène pour les Juifs, terre de Juda, hein, exclusif au reste d'Israël, le reste, hein, les Samaritains, les Galiléens. Judée, une terre distincte. Me voyez-vous venir? La Judée, pourquoi pas notre Québec? Notre Judée. Et puis là, il y a les autres, hein, bien, il y a les Ontariens puis les Albertains. On est exclusif. Hein? Mais ils font partie, les Saskatchewanais, Naïsa, bienvenue. Mais ils font partie de notre gang. Ils ne parlent peut-être pas la même langue, mais on est ensemble, on a tous le même souverain. Nous, c'est un premier ministre, on n'a pas un président. Merci Seigneur. Donc, le Canada, notre Samarie. J'aimerais qu'on regarde, surtout ce matin, se concentrer sur notre Jérusalem. Est-ce qu'il y a réellement un champ de mission qui est plus proche de nous autres que la Jérusalem? Même à l'intérieur de la Jérusalem, hein, lorsque l'agriculteur sort pour aller travailler ses champs, il sort de quoi? Il sort de sa maison. Sa maison qui, bon, ça c'est assez cliché, là, la maison est comme au milieu de ses champs. Des fois, ce n'est pas toujours comme ça, mais hein, la maison au milieu de ses champs, au milieu du champ de mission immédiat. Notre propre maison, notre couple, nos familles. N'oublions pas ça, frères, je parle aux hommes, qu'on va rendre compte au maître pour ce champ de mission. Un champ de mission qui est précieux aux yeux du maître. Précieux, et on ne réalise pas à quel point, quel privilège nous a été donné d'œuvrer dans ce champ de mission. Si vous avez parlé avec des frères, des sœurs qui désirent, qui languissent pour une famille, on verrait. Des fois, on a envie de dire « béni sois-tu », mais ça se passe des fois, on est chialeux. Mais vraiment, c'est précieux qu'est-ce qu'on a. ne négligeons pas de grâce ce champ de mission, mes frères. Les papas, les mamans, soyons des missionnaires dans notre foyer. Prions pour nos couples. Prions pour nos enfants. Intéressons-nous à ce qu'ils apprennent, à l'école du dimanche en particulier. Ça peut servir de tremplin pour garnir, bonifier ce qu'ils apprennent. Et puis en même temps, ça amène des bonnes discussions, parce que quand on en fait sur l'heure du repas comme ça, je vous le dis, quand il arrive adolescent, ça bouillonne dans ça. Puis il vous pose des méchantes colles. Ça nous fait travailler aussi. Donc, important, parce que nos enfants, aujourd'hui, sont bombardés à l'école de cette pensée, cette fameuse laïcité, qui est aujourd'hui, vous savez, la laïcité, c'est le déguisement de l'athéisme. C'est ça qu'on enseigne aujourd'hui. Donc, soyons au courant. Soyons, découvrons ce qu'ils, à quoi ils sont exposés. Un peu comme l'agriculteur qui marche dans ses champs et qui regarde ses plantes, hein, qui les examine afin d'administrer le bon engrais ou le bon pesticide. Important, connaissons ce qui se passe dans notre champ de mission. Notre mission à l'extérieur de notre domicile. Si vous êtes célibataire, eh bien là, vous passez directement à ça. Vous avez un passe-droit. Si après vous êtes occupé de la plante, du poisson rouge, de votre chat, le champ missionnaire, il est à l'extérieur de la maison. L'agriculteur, il sort sur son perron puis il voit ses champs autour de lui. Ses champs de mission immédiats. Hein? Pour nous, on sort, on a les voisins. On a un potentiel là, dans l'immédiat de 8, hein, 8 voisins. Ceux de, comme on dit, de billets aussi, en avant, en arrière, de côté. Ah, les voisins. Soyons prudents. Soyons sages avec nos voisins. On les a longtemps. Hein? Et si ce n'est pas les voisins, bien, c'est les collègues de travail. L'endroit où on va partager avec eux le repas sur l'heure du dîner. La pause café. Si ce n'est pas au travail, c'est à l'école. Les professeurs même. Je comprends peut-être au primaire, secondaire, c'est peut-être un peu compliqué de commencer à discuter avec le prof, mais cégep, université, oh, ça se corse. Il y en a ici qui pouvaient vous le dire. Et ce qui est important également de considérer nos loisirs. Nos loisirs, les sports, les activités. Hein, c'est un champ de missionnaire extérieur à laquelle on a un contact. On a un contact externe de l'Église. C'est important de considérer ça. Du bénévolat au sein d'organismes communautaires. Ça peut être même des organismes communautaires qui sont organisés par l'Église aussi. Ou des mouvements, des plateformes à lesquelles vous pouvez aller servir. On pense les kiosques de fermiers chrétiens. Il y a le groupe biblique universitaire. La Villa du Carmel, les camps. Même la cuisine. Et le CAPED, il se passe des choses au centre-ville. Une belle plateforme parmi les démunis, là où Jésus était. Annoncer la parole, partager. C'est important de garder un réseau social en dehors de l'Église, en dehors de l'Assemblée. Et là, ben, peut-être c'est compliqué, on se dit, ouais, mais tu sais, témoigner comme ça, c'est pas si évident que ça. Premièrement, première des choses, avant même de parler, prions pour eux. Hein? Prions pour nos voisins. Prions pour le professeur à l'école. Prions pour le collègue de travail. Il faut prier pour eux avant. Et ensuite de ça, de leur faire du bien quand l'occasion se présente. Leur faire du bien inconditionnellement. Même si le voisin peut être désagréable des fois. C'est ça le travail. C'est ça le travail du champ missionnaire. Ça fait partie de l'évangélisation. Ça fait partie de la préparation. Hein, c'est le labour de la terre juste avant hein, de pouvoir lancer peut-être la semence, cette parole, cette semence incorruptible. Et là vient le moment de dire, il faut que je trouve le moment de parler, de dire quelque chose. Ça, c'est pas évident. Puis des fois, c'est pas si compliqué que ça. Des fois, juste une petite parole. Merci Seigneur pour la santé que j'ai dans toutes les activités que je fais. Juste ça. Merci Seigneur pour la belle température qu'on a. De ce temps-là, on ne peut pas apprendre. Elle. Ou des fois, les gens sont frustrés de ce qui se passe, hein, des injustices, la corruption, puis de leur dire, oui, c'est vrai qu'il y a de l'injustice dans le monde, mais Dieu, lui, va s'occuper des injustes. Juste ça. Vous allez voir, le voisin, il va vous étiqueter. Vous allez être sous haute surveillance après avoir dit des paroles comme ça. ils vont vous observer. Vous savez, c'est comme les modes d'instruction qu'on a sur les bouteilles, les produits chimiques qu'on a. Et c'est écrit tout petit, là, puis là, c'est marqué « Appliquez la solution et laissez agir ». Là, regardez votre voisin s'il change de couleur. Hein? Mais il y en a parfois là, qui y vont avec le missile nucléaire en partant. Hein? C'est une histoire vraie, ça. Le gars, tu es à côté de sa clôture, là, puis le voisin, il s'appelle Bob. Bob! Il dit, tu sais, l'herbe, là, ton gazon sec que tu brûles, là. Il dit, c'est ça qui t'attend. C'est ça que Dieu va te faire, toi. Ça, c'est ce qu'on appelle vacciner son voisin contre l'Évangile. Et puis ça, là, c'est plus efficace que le vaccin de la grippe. Il dure longtemps. Pas besoin d'y retourner chaque année. Non, mais, tu sais, oui, il y a des moments pour le dire, ça. Ça se dit, il y a des moments. C'est biblique. Le Seigneur l'a utilisé, cette image-là. Mais il y a un temps. À moins là, que vous êtes vraiment exaspéré contre votre voisin. Puis, trouvez-vous des fois, hein, c'est ça, on sent à travers tout ça qu'on a été maladroit. On n'a peut-être pas assez parlé ou peut-être dit, ouh, je pense que j'en ai trop dit, je pense qu'elle est étourdie, là. Tu sais, c'est comme on se sent tellement malhabile dans ça. Mais dites-vous une chose, si vous avez passé la première étape, vous avez prié pour ça avant de témoigner, laissez le Saint-Esprit travailler dans ça. Vous n'avez pas fait d'erreur. C'était comme ça, fallait ça se passe. Ah, il y a tellement d'anecdotes qu'on entend de ceux qui témoignent, qui ont dit « j'ai juste dit ça » ou « juste une parole », même ça n'avait même pas rapport. C'était même pas… Et puis là, les gens reviennent et disent « hey, tu sais, là, hier quand tu m'as dit ça, là, ça m'a vraiment touché. » On est comme un peu surpris, on ne pensait pas. Mais le Saint-Esprit travaille. Il est toujours à l'œuvre. Cette puissance qui nous a été donnée, elle est toujours là. Et puis témoigner à sa famille. Oh, celle-là n'est pas facile. Pas facile. Mais souvenons-nous que même Jésus ne l'a pas eu facile. De ses propres paroles, hein? Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa famille, dans sa parenté, dans sa maison. Souvenons-nous des paroles de l'apôtre Paul pour s'encourager dans Romains 16:1. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Une puissance de Dieu. Ce n'est pas notre puissance. Ce n'est pas une puissance là, qui m'a fait une puissance. Ce n'est pas ça. On la transporte. Faut se voir comme, voyons-nous comme des canons. On est des canons qui transportent un obus. C'est le canon, là, lui, il transporte puis il dirige l'obus. Ce n'est pas le canon qui fait le job. C'est l'obus qu'il y a dedans. Le canon, il transporte, il dirige, puis là, ça part. Boum! Là, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile qui a été propulsé. Ce n'est pas nous autres. On est juste celui qui l'a tiré. Et puis ça va faire son effet. Dieu l'a promis. Soyons encouragés. Il ne faut pas se décourager de notre façon d'être, de notre façon de dire. On laisse l'Esprit travailler. Et je vous encourage, on a une leçon à EBE, je fais une plug, étude biblique essentielle, leçon 12, sur l'évangélisation. En fait, comment développer cet esprit, cette capacité de témoin avec les capacités qu'on a, de pouvoir être ces canons qui transportent l'obus de l'Évangile. Je vais rapidement concernant la Samarie et notre Judée, le Québec et notre Canada. Évidemment, on connaît le modèle classique où c'est surtout les églises hein, qui équipent des hommes, des femmes pour les envoyer à l'œuvre dans le champ missionnaire au Québec. Et dans certains cas, à l'extérieur du Québec, même dans notre pays, en Ontario, on a envoyé des gens d'ici là-bas. Et de plus en plus, depuis une dizaine d'années, on voit un nouveau phénomène parmi les églises qui est le réseautage. Ce n'est pas nécessairement des associations ou des fédérations, c'est des unions de réseaux, des gens qui s'unissent pour mettre leurs forces, leurs ressources ensemble pour mieux équiper, mieux envoyer, plus rapidement et de faire un travail qui fait en sorte que ça multiplie. Ça multiplie les disciples, ça multiplie les églises. Donc, on le voit au Québec, hein, le réseau des assemblées évangéliques du Québec qui est une force depuis une dizaine d'années. Et au Canada, il existe. Il existe ce réseau et il est en train, tranquillement, de progresser vers le Québec. Parce que ce réseau-là, il travaille à une nouvelle réalité, mes amis. C'est ce que je voudrais que vous reteniez ce matin. On a maintenant, chez nous, un mouvement d'immigration qui est en train de changer le paysage de nos églises. Et ça, les grandes villes comme Toronto et Vancouver le vivent. Montréal est en éclosion actuellement. Mais ce qui arrive, c'est qu'à l'extérieur, nos voisins en Ontario, en Colombie-Britannique, ils vivent cette explosion-là des églises ethniques qui s'en vont en région. Ils s'établissent en région. Et là, les églises qui sont en région, comme à Trois-Rivières, vont voir cela. On va le vivre. Et eux travaillent déjà à cela. Et on a un savoir-faire là auquel on peut se greffer. On va en parler plus dans les prochains mois de ce réseau qui existe. Mais c'est de comprendre la réalité qu'avant, on envoyait des missionnaires outre-mer. Et l'arrivée de ces églises ethniques qui grandissent amène des missionnaires de là-bas ici, pour eux. Des églises de mandarins, de persans, d'arabes. C'est en explosion et ça s'en vient dans les régions. Donc, une réalité pour nous, dans notre Judée, dans notre Samarie, dans notre ville également. Donc, on va voir dans les trois prochains dimanches qu'est-ce qui se passe aux extrémités de la terre. Parce que les extrémités de la terre, c'est leur Jérusalem, c'est leur Judée, c'est leur Samarie. Donc, on va voir ce qui se passe là-bas. La semaine prochaine, on va voir comment on équipe notre jeunesse pour les envoyer dans ces extrémités. On va avoir d'autres invités pour nous parler le travail qui se fait là-bas, principalement en Afrique. Et on va également, comme je le mentionnais tantôt, voir comment il est dur en certains endroits, le prix payé par nos frères et sœurs qui témoignent de l'Évangile. Il y a un champ de mission que j'aimerais vous parler avant de vous quitter ce matin, vous laisser aller à ces dîners de fête des mères. Et c'est un champ de mission qui est primordial, qui est capital, qui est vital. Ce champ de mission-là, c'est comme le soldat. Hein? Le soldat qui veut aller accomplir le travail dans sa mission, s'il n'est pas préparé, entraîné, exercé quotidiennement, il ne réussira pas sa mission. Il va être même inapte à son service. Ce champ de mission-là, mes amis, c'est notre cœur. Notre propre cœur, juste ici. Hein? Ce qui se passe entre nos deux épaules, au-dessus des épaules aussi. C'est la même chose. C'est la même chose que ce soldat pour un témoin du royaume de Dieu. Cette préparation. Le Saint-Esprit qui désire et qui va habiter en vous, en nous, veut faire un travail. Il veut faire un travail, mais il a besoin de nous, dans notre bonne volonté et de mettre nos cœurs et nos pensées. Sinon, on va être inaptes dans ce champ de mission. On a un ennemi qui est tenace. Et c'est un ennemi qui revient constamment à la charge, à reconquérir le territoire de nos cœurs qui a perdu. Ce territoire de nos cœurs, l'ennemi le connaît. Il le connaît, le territoire de nos cœurs, parce qu'il y a habité depuis notre enfance, depuis notre naissance. Il connaît toutes les cachettes. On aime ça, jouer à cachette. Même quand on est petit, hein, c'est là, ça, on joue à cachette. Des fois, les grands, on aime ça, jouer à cachette aussi avec les jeunes. Mais c'est ça, tous, on aime tous les cachettes. Et dans la vie, on a appris à faire des cachettes. Hein? On a appris à compter. On sait comment compter des menteries. On sait comment cacher nos cigarettes. On sait comment cacher le petit remontant au travail sans que personne ne me voie. On sait comment cacher de l'argent pour payer moins d'impôts. On a des agendas cachés. Ah, les cachettes. L'ennemi nous accompagne dans nos cachettes et cet ennemi-là, il est le concepteur de nos cachettes. Il s'appelle le péché. Il fait partie de notre territoire. On en a hérité de nos parents. On a hérité, c'est inévitable. Ça vient de l'ADN. Hein? La moitié du père, la moitié de la mère. Mais c'est sûr que le meilleur, il vient du côté de la mère. Hein? C'était mon cadeau de la fête des mères. La Bible dit, « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? » Job 25, 4. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, 23. « Tous, sans exception. Il n'y a point sur la terre d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. » Paul reprend les mêmes paroles en écrivant, selon ce qu'il est écrit. « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » On est fait à l'os, pas un. Vous savez, c'est probablement le plus grand problème. C'est le plus grand problème de l'humanité. De faire face à cette réalité, devant un Dieu trois fois saint, parfaitement pur, et de reconnaître que je suis un pécheur, que je suis injuste devant lui. Destiné à un enfer éternel, loin de Dieu, une totale absence de sa grâce, de sa personne. Un lieu où il n'y a plus aucun bienfait. Tu sais, tous les petits beaux moments de la vie qu'on peut avoir, les moments de la vie dans lesquels on peut être émerveillé, où il y a de l'amour, de la tendresse, etc. Rien de ça. Rien. Niette. Zit. Juste de la souffrance. Non seulement on est accroché à cet orgueil-là qui nous empêche de reconnaître le péché, un orgueil qui, même dans la société d'aujourd'hui, hein, cet orgueil-là est au travail dans toutes les couches de la société et il travaille activement à éliminer toute trace de ce qui pourrait faire une allusion à Dieu. Il travaille fort. On commence dans les garderies, ça s'en va dans les écoles, les universités, nos institutions. C'est une purge systématique. Est-ce qu'on est conscient de ça? Ça se fait juste sous nos yeux. Écoutez, vous avez peut-être déjà entendu parler, évidemment, on ne se surprend plus de la question des symboles religieux comme le sapin de Noël, la crèche qu'on ne veut plus voir. Écoutez, ça s'en va vraiment à un autre niveau. C'était dans les journaux à Vancouver cette semaine. Et il y a une école, il y a un professeur, la direction a eu une plainte de parents à l'effet qu'ils trouvaient ça blessant, même un petit peu traumatisant pour l'enfant qui devait fabriquer des cartes pour la fête des mères. Parce que cet enfant-là, il y a un papa puis il y a un papa. Il n'y a pas de maman. Alors ça le blesse. On ne devrait pas faire de cartes des mères dans les classes. Voyez-vous, probablement que ça ira pas loin, mais ça commence. Tu sais, ça s'en va à un autre niveau. Ça travaille fort. Quel dommage. Mais c'est là que ça s'en va, mes amis. C'est là que ça s'en va. Parce que c'est ce qui démange le cœur de l'homme. Hein? Malgré tout cela, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en l'homme qui le travaille. Il veut refaire cette connexion-là qui a été perdue depuis Adam. Parce que c'était en Adam. Hein? Adam était pour vivre éternellement. C'est comme quelque chose qui a été imprimé dans une mémoire, et puis là, ça a resté. Et puis là, on l'a. On a cette pensée-là qu'on veut avoir. Hein? Ça nous démange. La vie éternelle. Hein? Il est écrit hein, que Dieu l'a même mis. Il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. C'est là, c'est imprimé en nous et on la recherche. L'homme est constamment à la recherche de cette fontaine de jouvence. On ne veut pas mourir, mais c'est exactement là que le péché nous amène. C'est inévitable. Et puis, il n'y a aucun système qui marche, même du temps de notre Seigneur. Les Juifs, hein, qui étaient bien éduqués dans la tradition et la foi, posèrent la fameuse question, hein? « Maître, comment, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Il posait la question directement et il répond à l'un d'eux, suis-moi. Suis-moi. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, suis-moi. Cet homme-là était riche, attaché à son argent. Le Seigneur le savait, connaissait son cœur. Il a été touché la corde sensible. L'homme n'a pas suivi. Trop difficile. Hein, le Seigneur a fait bullseye, exactement, où est-ce qu'il fallait. Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'il y en a ici qui sont fatigués, épuisés, étourdis de chercher ce bonheur que les coachs de vie, les motivateurs, les gourous de ce siècle vous promettent en 12 étapes, en 18 versements? Ou bien vous êtes comme 99 % des Québécois qui ne savent plus où donner de la tête dans toute cette jungle-là de religion qui émerge. Et puis, on se rend compte qu'il n'y a aucun de ces systèmes-là qui donne aucune garantie, aucune certitude. C'est ce qu'on découvre. Il n'y a rien dans ça. Il n'y a aucune promesse. Aucune promesse qui satisfasse ce qui nous démange. Hein? L'autre bord, j'y vas-tu? La fameuse question. Vous aimeriez ce matin poser vous-même la question au maître, de lui demander à Jésus, hein? Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Vous savez ce qu'il répondrait. La même chose. Suis-moi. Abandonne toutes ces passions que tu as qui te retiennent captif. Abandonne-les et suis-moi. Il ferait la même chose. Il irait exactement où est-ce que la petite corde sensible allait. Il vous connaît. Pas facile, hein? Pas facile de faire ça. Et puis là, on tombe dans le même panneau. Fais pas ci, fais pas ça. Fais ci, fais ça. C'est ça. Mais ça, c'est dur. Est-ce qu'on est capable de faire ça de nos propres forces? Abandonner. Ça, c'est pareil comme demander à 11 hommes, vous allez conquérir le monde au moyen de l'Antiquité. Là. Ils n'ont pas de chance, ils sont en sandales. Vous allez conquérir le monde. Mission impossible. On ne peut pas se débarrasser de l'auteur de nos cachettes, le péché. On ne peut pas le faire. C'est aussi dur que de conquérir le monde. Ça, c'est le piège des religions, mes amis. C'est le piège des religions qui vont vous demander de faire des choses. Mais, le Seigneur n'a pas laissé les disciples comme ça. Hein? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quelle bonne nouvelle, mes amis! Quelle bonne nouvelle! Ça, c'était une raison de plus pour se réjouir. Hein? Il était réjoui que le maître était ressuscité, mais il en avait un autre. On allait recevoir une puissance. Essayez pas de vos propres forces. Les apôtres auraient également échoué le faire sans cela, et le Seigneur le savait. Revêtez-vous de ce que Christ a acquis à la croix par sa victoire sur la mort. Regardez à la croix. Regardez à la croix. Voilà où votre péché qui vous retient captif a été cloué. À la croix avec Jésus-Christ, qui va emporter avec lui dans la mort par le châtiment qui nous était réservé. Je t'en supplie, toi, ici ce matin, écoute et mets ton orgueil de côté pendant un instant. Reconnais le Fils de Dieu. Reconnais ce qu'il a accompli pour toi. Jésus-Christ a emporté avec lui tes péchés, passé, présent, à venir, tous, toutes, il n'en reste plus, il les a tous amenés. Une fois pour toutes, il n'y a pas besoin de recommencer. Il les a emportés dans sa mort et le Père l'a ressuscité des morts pour lui donner le pouvoir de donner la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, et c'est le Seigneur qui a parlé. Et ça, si vous ne l'avez pas encerclé dans vos bibles, il y en a plusieurs qui s'est déjà fait. Hein, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'en est une promesse, ça, puis elle est certaine. Il a la vie éternelle. Il n'y a point de jugement sur lui. Hein, et il revient de la mort à la vie. Quelle belle promesse! Et Jean-Baptiste, même Jean-Baptiste qui attirait les foules, Et puis là, il y en avait qui posaient des questions par rapport à Jésus. Parce que là, écoute, il voyait Jean-Baptiste, lui, c'était le top, là. Puis là, Jésus commençait à baptiser. Wow! C'est qui, lui, par rapport à toi? Hein? Jean-Baptiste termine sa confession, son témoignage pour Jésus-Christ en disant, dans Jean 33-36, « Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Recevez cette puissance qui vous libérera de vos chaînes. Recevoir le Saint-Esprit, ça se fait en un instant. Et à partir de ce moment-là, le travail de libération va se faire. C'est le moment où vous avez la puissance de vraiment faire le travail. Le péché a été enlevé et là, le travail de transformation commence. Le réel travail de transformation. N'essayez pas de vous libérer avant d'aller au pied de la croix. Vous n'y irez jamais. C'est un piège. Encore une fois, c'est le piège des religions. Votre libération commence à la croix. Et la beauté dans tout ça, c'est que du moment que le Saint-Esprit vous habite, Dieu va vous regarder désormais avec les yeux de Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ qui était cloué sur la croix et qui vous voyait depuis ce moment-là, qui vous voyait et qui attendait patiemment de vous entendre dire, « Seigneur, je te donne ma vie. » Il attendait. C'est un miracle. C'est un miracle. On n'est pas capable de faire ça. Donnez votre vie à Jésus aujourd'hui. Maintenant, le temps, c'est le temps favorable. Maintenant, le jour, voici maintenant le jour du salut, comme il est écrit. Maintenant, n'attendez pas. Et c'est à travers ce miracle-là, ce miracle que vous allez